avions commencé, nous avons parlé le tout début d'année, le premier dimanche du mois, du fait de croître dans la grâce de Dieu, dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. Et nous avions évoqué le fait que pour croître dans la grâce, eh bien Dieu donnait des moyens, qu'on appelle parfois des moyens de grâce, qui sont la parole de Dieu, la prière, l'Église, la communion des saints, la participation aux ordonnances. Donc nous voulons considérer cet aspect de la parole de Dieu ce matin. Et je vais commencer par une question. Combien est-ce que vous avez déjà calculé, mais je peux que vous ne l'avez pas fait, moi non plus, hein, mais combien de sermons, d'études bibliques, d'enseignements en tout genre à travers différentes réunions, avez-vous déjà entendu dans votre vie? Hein? Imaginez que si on écoute une fois seulement le dimanche, sur 52 dimanches dans une année, cela fait au moins 52 quand on multiplie par les réunions de semaine, par les rencontres spéciales, cela s'ajoute pas mal, hein? On a déjà dépassé la centaine. Et puis, quand on multiplie ça par 10, si c'est 10 ans, ou par 20, si c'est 20 ans, on est à plus de 2000. Sans compter ce qu'on écoute sur Internet et toutes les autres choses que l'on peut. Et ça fait une quantité incroyable de choses que l'on entend. Et on ajoute à ça la propre lecture de la parole de Dieu, aussi les méditations personnelles. Cela fait beaucoup. Et c'est un privilège énorme, n'est-ce pas, que nous avons de pouvoir écouter et entendre ainsi la parole de Dieu. Mais j'ai une autre question. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons entendu? Quel impact toutes nos lectures de la Bible et l'écoute régulière de la prédication de l'Évangile, quel impact cela a eu dans notre vie? Peut-être pourrons-nous dire, mais l'impact a été grand. Ouais. Certainement. Alors, je vais vous poser la question autrement. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Et c'est le Seigneur lui-même qui pose quelque part, qui suggère un peu cette question dans Luc chapitre 8, par exemple, il dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Donc Jésus dit « Attention, il faut prendre garde à la manière dont vous écoutez. » Il dit pas simplement à ce que vous écoutez, mais il dit à la manière dont vous écoutez. Vous vous rappelez que Jésus s'intéresse à la manière, quand les gens donnaient de l'argent, vous vous rappelez dans le temple, la Bible dit que Jésus s'était mis au fond du temple, il regardait pas ce que les gens mettaient dans l'offrande, mais comment ils mettaient dans l'offrande. Donc la manière avec laquelle on fait les choses intéresse le Seigneur particulièrement, et spécifiquement la manière avec laquelle on écoute la parole est importante. Et donc c'est un avertissement fort que Jésus donne quand il dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Et cela montre que, en fait, notre manière d'écouter la parole n'est pas sans conséquence pour la vie. Et que même la manière d'écouter la parole, c'est une question de vie ou de mort. Parce que quand Jésus dit, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, on va peut-être voir ce texte plus tard, mais quand il parle à la fin du sermon sur la montagne, au chapitre 7, et où il compare ces deux personnes qui construisent des maisons, l'une sur le fondement solide et l'autre sur le sable. Et puis, il dit que les vents, les torrents sont venus et celui qui a construit sa maison sur le sable, elle a résisté. Et puis l'autre, eh bien, elle a été balayée. Il parle ici de la vie et de la mort, la vie éternelle, de la mort éternelle, de la vie avec lui et de l'enfer. C'est ce qu'il est en train de traiter et à la fin de tout ce qu'il vient d'enseigner. Il dit, attention à la manière avec laquelle vous avez écouté tout ce que je viens de dire. Parce que, suivant la manière avec laquelle vous considérez ces choses, vous serez comme un homme sage qui bâtit sur le fondement ou comme un fou qui bâtit sur le sable. Et donc, par conséquent, chers frères et sœurs, chers amis, il est urgent de s'assurer que l'on écoute de la bonne manière, que l'on écoute d'une manière profitable, d'une manière bénéfique. Et le titre du message ce matin, c'est « Comment écouter la parole prêchée de manière profitable ?» Comment écouter la parole prêchée de manière profitable ou de manière bénéfique ? Et nous allons considérer cette question avec trois textes, trois passages différents qui vont nous donner des pistes, des clés pour que nous puissions écouter la parole de Dieu avec profit. Le premier texte se trouve dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Je vous demande donc d'ouvrir votre Bible, 1 Thessaloniciens au chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, et nous allons lire 1 Thessaloniciens au chapitre 2, et nous allons lire au verset 13. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, nous allons lire au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu, et l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, et il est dans la joie. Il écrit ceci au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2, et au verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme venant, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » On a là une première clé, si j'ose dire, une première manière avec laquelle on doit écouter la parole pour qu'elle soit profitable. Il faut la recevoir, c'est le premier point ici. Il faut recevoir la parole prêchée avec révérence et telle qu'elle est véritablement. Il faut recevoir la parole prêchée telle qu'elle est véritablement avec révérence. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il rend grâce à Dieu de ce que, quand les Thessaloniciens ont entendu la prédication de la parole, ils l'ont reçue comme la parole de Dieu. Il ne dit pas « lorsque vous avez lu la Bible ». Il n'y en avait pas à ce moment. Il dit « lorsque vous avez reçu la parole que nous vous avons fait entendre ». Donc, il parle de parole prêchée ici. Il parle de la prédication de la parole. Il ne parle pas juste du fait qu'il a lu les textes de l'Ancien Testament devant eux. Et on peut voir ça en Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul est à Thessalonique, Actes chapitre 17, regardez Actes chapitre 17, et au verset 1 à 4, Actes 17, verset 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Donc là, c'est là où il est à Thessalonique, et donc il est en contact avec les Thessaloniciens, et il dit, le texte nous dit, « Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats, et il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Le texte nous dit que Paul, il a argumenté, il a discuté, il a expliqué, il a exposé, il a amené des explications pour que les Thessaloniciens puissent comprendre ce qui était dans les Écritures. Il y le fait, verset 2, d'après les Écritures, d'après l'Ancien Testament qu'il avait, il a expliqué que le Jésus historique est le Christ. Donc c'est une parole prêchée qu'il leur a annoncée ici. C'est la parole, et il dit ici que vous avez reçu la prédication de la parole que nous vous avons donnée, non comme quelque chose qui vient des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc Paul dit ici que la prédication, la Bible dit clairement que la prédication, la parole prêchée correctement fondée sur l'Écriture, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Donc quand on vient et qu'on écoute une prédication correctement fondée sur l'Écriture, on n'écoute pas la parole d'un homme, on écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'elle est véritablement. Et c'est ainsi qu'il faut recevoir la prédication pour qu'elle soit bénéfique. Si nous voulons qu'elle soit bénéfique, il faut la recevoir telle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Et ce n'était pas quelque chose de naturel pour les hommes de recevoir la prédication d'un homme comme la parole de Dieu. Ça ne l'était pas à l'époque de l'apôtre Paul. Parfois, il était obligé de dire, en Galates 1.11, il dit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Pourquoi il dit cela? C'est parce que, naturellement, quand les gens écoutent parler un prédicateur, pour eux, ce sont des paroles d'homme. Et même l'apôtre Paul est confronté à cela. Il doit dire, « Ce ne sont pas des paroles d'homme. » Ça ne vient pas, ce que je vous annonce, ne vient pas d'un homme. Et c'est encore pareil aujourd'hui, où l'homme ne voit dans l'évangile et sa prédication qu'une parole d'homme, une parole humaine, que l'on peut mettre au même niveau que de la philosophie, ou que de la politique, ou qu'autre chose. Les philosophes d'Athènes, vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul, en Actes chapitre 17, leur a parlé, ils n'ont pas reçu la parole comme étant la parole de Dieu, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette doctrine que tu nous fais entendre? Tu nous fais entendre des choses nouvelles. Il dit, il semble qu'il annonce une énième divinité. C'était voilà, une philosophie de plus. C'est comme cela qu'ils l'ont considéré. Ce sont des paroles d'homme. L'homme naturel, quand il entend la prédication de l'évangile, il la prend pour des paroles d'homme. Il arrive que parfois même le chrétien aussi, malheureusement, peut avoir ce même jugement sur la parole prêchée. Cette parole, parfois, selon leur jugement, ne vole pas plus haut que le prédicateur qui la prononce. Et on écoute d'une oreille distraite, sans révérence. Parce que, après tout, ça n'est qu'une parole d'homme. Mais l'écriture est formelle ici. La prédication de la parole correctement fondée sur l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, « Je me réjouis de ce qu'en écoutant la prédication que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Et donc, prédication de la parole fondée sur l'Écriture, c'est la parole de Dieu, mais la réception de la parole prêchée comme parole de Dieu est ce qu'il y a de plus bénéfique. Il dit que vous l'avez reçue et cette parole a agi en vous qui croyez. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, dit le verset, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Recevoir la parole prêchée telle qu'elle l'est véritablement, c'est-à-dire comme la parole de Dieu, apportera un bénéfice aux croyants. Paul dit que la parole ainsi reçue agit. Et le terme agit ici peut être traduit par opérer. Elle opère, elle accomplit une œuvre. D'autres textes traduisent, elle agit avec efficacité. Donc, elle est bénéfique. Ce qui est bénéfique, c'est ce qui m'apporte un plus, hein. Si quand je fais une activité ou j'écoute quelque chose, il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien en plus, ça n'est pas bénéfique. Et Paul dit que quand on écoute, quand on reçoit la parole prêchée, la prédication comme venant de Dieu, et qu'on l'accepte ainsi, il dit cela agit efficacement en vous. Et si on stagne parfois, c'est parce que on écoute d'une oreille distraite et on ne prend pas la parole que l'on entend comme la parole de Dieu. on la considère uniquement comme une simple parole d'homme. Pour qu'un message agisse dans la vie, il faut le recevoir, il faut l'accepter, il faut l'embrasser comme ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. Faire accueil, chers amis, chers frères et sœurs, à la parole, comme à la prédication, comme la parole de Dieu, c'est ce qui nous permettra de croître dans la vie chrétienne. Recevoir la parole telle qu'elle est, c'est ce qui permet d'avoir le salut. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, je vous lis. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc c'est l'évangile que je vous ai annoncé. C'est la prédication encore ici. Et il dit, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc dans sa forme, dans son contenu, et il a annoncé en disant que ça, c'est la parole de Dieu. Si vous la retenez ainsi, eh bien, il dit, elle vous sauve. Vous êtes sauvés par cet évangile. Et donc, quand la prédication est reçue comme une parole d'homme, chers frères et sœurs, on ne se gêne pas pour la critiquer ou pour la contredire, parce qu'après tout, dans notre pensée, ça n'est qu'une parole d'homme. La parole de Dieu est reçue comme la parole de Dieu quand elle est reçue avec révérence, avec attention, avec respect, avec disposition de cœur. Et donc ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense quand la parole de Dieu est proclamée est déterminé par la valeur qu'on attribue à cette parole. Parole de Dieu ou parole des hommes. Et l'attitude du chrétien qui vient écouter la prédication ou méditer l'écriture devrait être « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. » Quel que soit le prédicateur qu'il y a en face, on cherche à entendre Dieu. L'auditeur qui reçoit la parole prêchée comme la parole de Dieu, il vient avec la disposition de Corneille. Vous vous rappelez de Corneille dans le livre des Actes ? C'est un païen qui fait venir l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre puisse lui expliquer l'évangile. Et avant que l'apôtre Pierre n'arrive, il va rassembler tous les membres de sa famille et toute sa maison, tous ses amis. Et quand Pierre arrive, il trouve pas simplement Corneille, il trouve Corneille plus du monde dans la maison. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Corneille dit à Pierre. Écoutez cela, en Actes chapitre 10, verset 33. Il lui dit, maintenant, vous pouvez chercher Actes 10, 33. Comme ça, vous allez le souligner dans votre Bible. Actes 10, verset 33. Acte 10, 33, il dit « Maintenant donc, ce sont les paroles de Corneille, nous sommes devant toi. » C'est ça qu'il dit ? Non. « Maintenant donc, nous sommes tous ceux qui sont là, devant qui ? Devant Dieu. » Il dit pas « Nous sommes devant toi pour écouter la parole. » Il dit « Nous sommes devant Dieu ici. » Et Pierre doit savoir que, attention, ces gens sont venus, ils sont avec une disposition de cœur où ils s'attendent à Dieu, pas à un homme. Ils sont devant Dieu. Et il dit, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il dit pas, nous sommes devant toi pour t'écouter, pour écouter ton message, pour écouter ce que tu as à nous dire. Il dit, nous sommes devant Dieu pour écouter Dieu. Et nous savons que tu es son instrument, il t'a ordonné de nous dire des choses. Alors dis-nous ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Voilà la disposition de celui qui s'approche de la prédication avec révérence. Il dit que ce sont des paroles de Dieu et il veut les écouter. Alors certes, ce sont des paroles prononcées par Pierre. Certes, c'était les explications de Pierre. Certes, il y avait peut-être des fautes d'élocution dues au langage de Pierre, qui auparavant était un marin pêcheur, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Certes, il y avait l'intonation de Pierre, le style de Pierre dans ce qui était dit. Mais ça n'était pas moins la parole de Dieu prêchée. Et Corneille et les autres qui ont écouté avec cette révérence. Et la Bible dit au verset 43, quand Pierre est en train de dire, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque le reçoit par son nom reçoit le pardon des péchés. Il dit, comme Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur eux tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Il dit, tous ceux qui écoutaient cette parole prêchée là, avec attention, avec révérence, eh bien, le Saint-Esprit est venu et les a touchés. Et parfois, nous ne sommes pas touchés parce qu'il n'y a pas de révérence. Il n'y a pas d'attention. Ce ne sont que les paroles d'un prédicateur. Mais si, comme Corneille, nous disons nous sommes devant Dieu pour écouter la parole de Dieu et que je cherche à recevoir ce qui est dit comme venant de Dieu, tant que la parole, bien sûr, est prêchée avec fidélité, hein, je ne parle pas, bien sûr, il y a des... On exclut tout ce qui n'est pas la parole prêchée avec fidélité. Mais tant que la parole est prêchée avec fidélité, s'appuie sur ce que l'Écriture dit. Si je ne suis pas dans cette disposition, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Et donc, pour écouter la parole prêchée avec bénéfice, il faut la recevoir telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, avec révérence. N'oublions pas que le diable est celui qui se tient le long du chemin et qui veut enlever la parole du cœur de ceux qui l'écoutent. Ça, c'était mon premier point, chers frères et sœurs. Deuxième clé, donc on pourrait dire la première clé, c'est vraiment écouter avec révérence, recevoir la parole, prêcher comme elle est, la parole de Dieu et pas la parole d'un homme. Une deuxième clé, nous allons en trouver avec le passage de Hébreux chapitre 4. Je vous demande donc de prendre Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et nous allons lire versets 1 et 2. Hébreux chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est facile de trouver la clé ici, n'est-ce pas? Très, très facile ici. Donc, deuxièmement, on pourrait souligner que pour écouter la parole prêchée d'une manière bénéfique, il faut mêler à la parole prêchée la foi. Il faut mêler la foi, mélanger la foi, parce que c'est ce que le texte dit clairement, à la parole prêchée. Notre texte dit que cette bonne nouvelle, l'Évangile, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Il parle du peuple d'Israël, ici, qui a eu toute une génération qui est sortie d'Égypte et qui a eu un grand privilège, le privilège d'entendre la parole de Dieu. Vous savez ce que Moïse dit en Deutéronome, chapitre 32, même le peuple dit la même chose aussi, 4, versets 32 et 36, il dit, « Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant. » C'est une chose extraordinaire, ça. Quel privilège. Entendre les paroles de Dieu et demeurer vivant. Voilà quel a été le privilège de ce peuple. Et le texte aux Hébreux dit que la bonne nouvelle que nous entendons, l'auteur dit que nous entendons là aujourd'hui, elle leur a été prêchée aussi dans le passé. Seulement, cette bonne nouvelle ne leur a pas été profitable. Elle ne leur a pas été bénéfique. Pourquoi y avait-il un problème dans la nouvelle, dans la bonne nouvelle? Absolument pas. C'était l'Évangile. C'est toujours la bonne nouvelle. Quoi que l'on fasse, la bonne nouvelle demeure la bonne nouvelle. L'évangile demeure l'évangile. Et l'apôtre Paul dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est l'évangile. On ne change pas sa valeur intrinsèque ici. Donc, le problème n'est pas dans la bonne nouvelle. Peut-être que le problème était dans le prédicateur. Était-il dans le prédicateur? Le problème, absolument pas. Ils ont eu qui comme prédicateur? Moïse. Le prophète Moïse. L'homme par qui Dieu a opéré une grande délivrance. L'homme par qui la loi est venue. Rappelez-vous, lorsque les pharisiens discutaient avec Jésus, comment ils étaient fiers d'avoir cette loi de Moïse. Le problème n'était pas dans le prédicateur. Et d'ailleurs, peu importe le standing du prédicateur, fut-il l'apôtre Paul, fut-il l'apôtre Pierre, fut-il le très éloquent Apollos, fut-il même le Seigneur Jésus, si il n'y a pas la foi qui est mêlée à la parole prêchée, le texte dit que ça ne sert à rien. C'est comme si on n'avait rien écouté du tout. Donc la parole de Dieu n'est pas faite que pour être écoutée. Il faut que celui qui écoute, il mélange la foi. Il croit dans cette parole. Il agisse avec cette parole dans la foi. Et ce que souligne le passage de l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment ce cœur incrédule que ce peuple a eu face à la proclamation de la vérité, de la parole de Dieu. Regardez en Hébreux chapitre 3, verset, vous allez voir, il y a quelque chose qui est assez surprenant. 3, verset 7, ici, il dit, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Regardez, chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que l'on lit? Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Regardez, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'on lit? Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, bien longtemps après, comme il l'a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà le problème qu'il est en train de souligner ici par trois fois. Dans très peu de versets, c'est une citation du psaume 95, bien sûr, qu'il y a ici, mais par trois fois, il est question, si vous entendez, si ça arrive à vos oreilles, laissez-le descendre jusqu'à votre cœur. Croyez-y. Mêlez-y la foi. Sinon, ça vous servira absolument à rien. C'est ce qu'il est en train de souligner ici. La parole de Dieu demeure lettre morte si elle ne rencontre pas la foi dans celui qui écoute. Elle agit dans la vie, l'apôtre Paul le dit, on l'a lu tout à l'heure en Thessaloniciens 2:13, dans la vie de celui qui croit. Vous la recevez comme la parole de Dieu qui agit en vous. Il ne s'arrête pas là. Qui croyez. Elle agit en vous qui croyez. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut la foi. Il faut croire à cette parole. Et donc, quand on écoute une prédication, on doit l'écouter avec foi. Pas de manière légère. Mais comment est-ce qu'on écoute avec foi? Comment est-ce qu'on mêle la foi à ce que l'on entend? Premièrement, on vérifie. On vérifie la conformité à l'écriture. On vérifie que ce qui est annoncé est conforme à l'écriture. Ça, c'est le premier point. En Actes chapitre 17, verset 11, vous vous rappelez, il y avait quand même quelques Thessaloniciens qui poursuivaient Paul et qui faisaient tout pour qu'il ne prêche pas la parole aux autres et pour que les autres ne soient pas sauvés. Et puis, la Bible parle des chrétiens qui habitaient Bérée, et dit que ceux-là, ils avaient une disposition différente. Et il dit ceci, en Actes chapitre 17, verset 11, l'Écriture dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. » Et si vous traduisez de manière plus littérale, ils disent « Ils reçurent la parole avec empressement en examinant. » C'est-à-dire que c'est pas qu'ils la reçoivent, et puis après, 10 jours après, ils vont examiner si ce qui est dit est vrai. Non, pendant qu'ils la reçoivent, ils écoutent bien, ils suivent pour savoir si ce qu'on dit est conforme à la parole de Dieu. Et aujourd'hui où nous avons toute la parole de Dieu, c'est facile pour nous de, plus facile pour nous de le faire, de comparer, d'écouter, de voir si ce qui est dit est exact. Donc la foi implique l'empressement à recevoir et aussi à recevoir en examinant la conformité à l'écriture. C'est pour ça que c'est dangereux d'écouter des choses à droite et à gauche, simplement comme ça, comme un vase ouvert, sans avoir sa Bible pour vérifier si ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas ce que la Bible dit, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous affranchira. Mais si on se met à écouter tout sans la parole de Dieu, on s'expose à l'hérésie et on s'expose à être trompé. Donc il faut avoir cette attitude dans laquelle on vérifie la conformité à ce qu'il dit. Cela demande bien sûr que l'on travaille. Si on est paresseux, on fera pas ça. Si on est paresseux, on sera trompé. Il faut travailler, il faut ouvrir la parole de Dieu et dire oui, effectivement, et être dans la prière. Seigneur, montre-moi si ça c'est la vérité. Et on la reçoit lorsque le Seigneur nous la montre. Ça c'est la première chose pour mêler la foi à la parole entendue. Mais une deuxième chose, c'est qu'on accepte la véracité de ce qui est annoncé. On dit, une fois que c'est conforme, on dit, ça c'est vrai Seigneur. Ce que tu dis de moi dans cette parole, c'est vrai. Ce que tu révèles ici de ta personne est vrai. Et je la reçois comme vraie. Il est important de croire à la véracité de ce qui est dit. Croire, c'est-à-dire faire confiance à ce qui est dit. Apporter notre assentiment intellectuel à ce qui est dit, aux informations qui sont données. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il s'est incarné, qu'il a vécu sur la terre une vie sans péché, qu'il est mort comme substitut pour les péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Je crois quand la Bible dit que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés, bien je crois que ça aussi c'est vrai. J'accepte ces choses comme vraies, comme la vérité. Ça c'est le deuxième point. Mais le troisième point qui est très important, c'est qu'on se confie aussi dans ce qui est annoncé. C'est ça la foi, on se confie, on s'abandonne à ce qui est annoncé. Le simple fait de croire que quelque chose est vrai ne sauve pas. C'est pas parce qu'on croit que Jésus est mort pour les péchés du monde, qu'il est venu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'un jour il va revenir. C'est pas parce que l'on croit ça dans la tête que l'on est sauvé. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, dans Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais attention, il dit quoi? Il dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire que les démons croient quelque chose qui est vrai, mais ils tremblent parce qu'ils savent que leur sort, c'est l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que cette connaissance vraie qu'ils ont ne leur est d'aucune utilité parce qu'ils sont perdus, eux, à tout jamais. Et par conséquent, il suffit pas simplement d'avoir une adhésion intellectuelle à la vérité. Il faut plus que cela. La foi doit inclure aussi une pleine confiance qui fait que l'on va s'approprier ce qui est annoncé. Mêler la foi, c'est faire confiance, c'est se reposer sur l'explication qui est donné. On compose avec ce qui est dit, ce qu'on a entendu, on fait des efforts pour ne pas oublier ce qu'on a entendu, on médite ce qu'on a entendu, on le croit, même si l'expérience semble indiquer le contraire. Alors, juste un exemple, vous pouvez prendre l'exemple de Noé, dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses, quoi, qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est-à-dire, la Bible dit que Noé, il est divinement averti de choses qu'on ne voit pas. D'accord? Si on vous dit qu'il y aura un déluge, ben, vous avez déjà vu la pluie, vous. Vous avez déjà vu des inondations partout. On n'a pas de mal à croire, hein, quand on voit comment, à quelle vitesse l'eau monte, parfois, on n'a pas de mal à croire que c'est possible. Mais imaginez Noé, pas une goutte de pluie, il ne savait même pas ce que c'était à l'époque. La Bible dit qu'il est averti divinement des choses qu'on ne voyait pas, on ne connaissait pas ces choses. Et Dieu lui dit qu'il y aura un déluge. Tu construis une arche et tu mets ta famille sur ta vie. Il doit croire deux choses. D'abord qu'il y aura un déluge, il ne sait même pas ce que c'est. Et puis deuxièmement, que ce qu'il est en train de fabriquer de ses droits, là, ici, ça va sauver sa famille. Mais la Bible dit qu'il a eu la foi, il a pris Dieu au mot, il a cru ce que Dieu lui a dit, et il a construit le bateau. Il construit sur la base de ce que Dieu lui a dit, même s'il ne voit pas ces choses. Et c'est ça la foi. Et donc quand on reçoit la parole de Dieu avec foi, on construit là-dessus, on construit sur ce qui est prêché. On va caler notre vie sur ce qui est prêché. À dire, à partir d'aujourd'hui, je vais faire comme ça. À partir d'aujourd'hui, je vais faire comme ça. Ça, c'est vrai, Seigneur. Je vois que c'est ta parole. Je vois que c'est la vérité. Je la reçois. Je la prends pour vrai. Et je vais faire comme Noé. Je vais construire sur ta parole. Donc, si la parole ne rencontre pas la foi, chers frères et sœurs, elle ne sert à rien. Donc, notre deuxième clé, comment écouter la parole prêchée de manière bénéfique, eh bien, il faut mêler la foi à la parole prêchée. Et puis, troisième point, ici, je vous invite à prendre un autre texte encore dans Jacques, que vous connaissez bien, certainement Jacques chapitre 1 et au verset 22. Nous allons lire verset 22 au verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à verset 25. Mettez la parole en pratique, ou mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Dans la Bible Semeur, le verset est traduit ainsi, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. D'accord? Ça, c'est le verset 22. Et donc, la troisième clé, le troisième point ici, c'est que pour écouter la parole prêchée de manière profitable, il faut traduire la parole prêchée en acte d'obéissance. Il faut traduire la parole prêchée en acte d'obéissance. Mettez en pratique la parole. Une troisième piste ici que nous donne l'Écriture, c'est que pour écouter de manière bénéfique, je dois conformer ma vie dans l'obéissance à ce que la parole de Dieu dit. Je dois la mettre en pratique. La parole de Dieu requiert une mise en pratique, une mise en œuvre immédiate. Elle requiert une obéissance. L'auteur ici, hein, il établit un contraste entre le fait d'écouter la parole et le fait de la mettre en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a un danger qui consiste à écouter simplement, et puis c'est tout. Et on pense que parce qu'on a écouté, on a fait ce qu'il faut faire. Il dit, celui qui écoute simplement, il se trompe lui-même. S'il écoute et qu'il ne met jamais en pratique, il se trompe. Mais sur quoi est-ce qu'il se trompe? C'est intéressant de le voir, et c'est ce que Jacques explique ici. C'est comme celui qui est tout sale, n'est-ce pas, qui apprend que l'eau, ça nettoie. Mais il est tout sale et puis il se met juste sous l'eau. Il reste comme ça. Prenez votre douche. Personne ne prend la douche comme ça. Hein. On ouvre la douche et puis on reste comme ça. Non, non, on prend quoi? On prend les gants, on prend le savon, on prend de l'eau, on frotte, on se lave, on travaille avec l'eau, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que l'on doit faire aussi hein, avec la parole. On doit la prendre et travailler avec, la mettre en pratique, la faire travailler pour que elle puisse être efficace. Et cette vérité de la mise en pratique est soulignée très clairement et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je vais vous lire juste un passage de l'Ancien Testament qui est un petit peu amusant quand même, parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel concernant l'attitude de ceux qui écoutent la prédication du prophète Ézéchiel. Alors, Ézéchiel chapitre 33 et au verset 30. Ézéchiel chapitre 33, verset 30. Alors écoutez, si vous n'avez pas le temps de trouver où ça se trouve, il dit, Étroit, c'est encore des pages qui tournent, mais j'aimerais que vous écoutiez, donc je vous laisse trouver. Ézéchiel 33, verset 30, il dit, Étroit, fils de l'homme, c'est Dieu qui parle, à son prophète, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs, il parle. Prédicateur, t'as dit ce qu'il a dit, Ézéchiel, ça parle de lui, hein. Il dit près des murs des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ah, ils ont envie d'écouter la parole. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et ça, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils s'assoient régulièrement, et ils prennent les paroles, et ils en font un sujet de moquerie. Il dit, écoute, ils ne le mettent pas en pratique. Et Dieu dit, Ézéchiel, écoute ça. Il continue, il dit, ici, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux. Je veux te dire ce que tu es pour eux, Ézéchiel. Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles. Ça chatouille leur oreille. Ils aiment, mais ils ne la mettent point en pratique. On pourrait dire que ce sont des auditeurs sympathiques, n'est-ce pas? Ils sont pas méchants, ils viennent, ils sont pas contre le prophète, ils viennent, ils écoutent le prophète, ils aiment sa voix, ils aiment son intonation, ils aiment ses illustrations, il a de belles illustrations, ils rigolent. Bon, c'est bien d'avoir des belles illustrations, c'est pas mauvais, mais ils ne retiennent que ça. Et avec le fond, ils ne font rien. Ils ne mettent pas en pratique tes paroles. Ils viennent, ils se déplacent, ils s'assoient, ils écoutent et ils recommencent sans jamais mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Et c'est ce que Jacques souligne ici quand il dit que l'on s'abuse soi-même si on pense que parce qu'on s'est exposé et que l'on a écouté et que l'on a aimé le prédicateur et que l'on a aimé l'illustration, eh bien, et qu'on s'arrête là, et que ça nous est bénéfique. Il dit non, ça n'est pas bénéfique. Et pour étayer cela, il prend l'image de la salle de bain de l'époque, ou des miroirs des femmes de l'époque. Hein. Il dit, regardez à la suite de ce qu'on a vu, car si quelqu'un écoute la parole, verset 23, Jacques chapitre 1, verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, Jésus disait la même chose, hein. Celui qui écoute se met en pratique, il est semblable à... Et donc l'image est là pour nous aider à comprendre. Il est semblable à quoi? Il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire ici? Il n'est pas en train de dire que simplement la parole de Dieu c'est un miroir. Ce qui est vrai aussi, quand on regarde, il nous révèle ce que nous sommes, nous révèle qui est Dieu, donc notre véritable état. Il n'est pas juste en train de dire la parole de Dieu c'est un miroir. Il dit non, il dit il y a des gens, il faut se rendre compte que les miroirs de l'époque n'étaient pas comme les miroirs que nous avons aujourd'hui. Nous avons des miroirs, on regarde dans ça, c'est excellent, n'est-ce pas? On a une image parfaite. À l'époque, c'était du métal poli, hein, et on essayait de se voir tant bien que mal à travers ces miroirs-là. C'était des miroirs qui renvoyaient des images déformées et floues. Comme quelqu'un disait, c'était comme si, voilà, vous vous regardez sous le capot d'une voiture. C'est bien, la peinture est bien métallisée. On arrive à voir des choses, mais quand même, on n'a jamais vu une femme se coiffer en regardant sous le capot d'une voiture, hein. Il faut un vrai miroir, n'est-ce pas? Eh bien, à l'époque, les miroirs ne renvoyaient pas de bonnes images. C'est pour ça que l'apôtre Paul, par exemple, dit, à un moment donné, il dit, attendez, je cherche le verset où il le dit dans 1 Corinthiens, je crois, dans 1 Corinthiens 13, il dit « Ainsi, nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, un jour, nous verrons face à face. » Il dit « Le miroir avec lequel on voit, on y voit de manière obscure, hein, ici. » C'était quelque chose qui ne renvoyait pas une bonne image. Donc, qu'est-ce qu'il souligne ici? Il souligne qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour se voir. Et il souligne l'absurdité qui consiste à faire des efforts pour se voir considérables. Et puis, une fois qu'on s'est vu, on a oublié ce qu'on a vu. Il dit, à quoi bon faire autant d'efforts pour oublier ce que l'on a vu? Il dit, c'est exactement ce que fait celui qui met pas la parole en pratique. Il fait des efforts pour être là. Il va braver les embouteillages. Il va pas dormir. Il va dormir moins. Il va laisser de côté du travail qu'il pourrait faire et qui est important. Il va venir. Il va s'asseoir. Il écoute. Il fait des efforts pour écouter. Il rentre chez lui. Il met pas en pratique. Il est comme celui qui a fait des efforts qui servent à rien. À rien. Et il fait ça année après année, mois après mois. Il dit, ça sert à rien. Il dit, si vous ne mettez pas, ne croyez pas que l'importance est dans les efforts que vous avez entrepris. Oh Seigneur, je me suis levé à 5 heures du matin pour pouvoir être là. J'ai écouté avec attention. C'était très bien ce que le prédicateur a dit aujourd'hui. Puis je rentre chez moi, oublié. Je ne mets pas en pratique. Il y avait une exhortation pour moi, je ne l'ai pas mise en pratique. Je n'ai rien fait pour la mettre en œuvre. Il dit, j'ai fait des efforts pour rien. J'ai fait des efforts. Et je m'abuse moi-même. C'est ce que le texte dit. Celui qui se borne à écouter, il s'abuse lui-même. La parole de Dieu n'est pas faite pour être simplement écoutée. Elle est faite pour être mise en œuvre dans la vie. Elle est faite pour être traduite en actes. Sinon, ça ne nous sera jamais, jamais, jamais bénéfique. Donc l'important n'est pas dans l'effort que l'on entreprend, mais dans ce que l'on fait avec la vérité que cet effort nous a permis de découvrir. Donc celui qui écoute, même de manière la plus religieuse, même avec la plus grande minutie, même s'il accepte dans sa pensée ce qui est dit, si la vérité ne se traduit pas par une obéissance, il est comme un homme qui fait des efforts pour se regarder et qui oublie tout ce qu'il a vu. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas s'abuser soi-même. Le verset 25 dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. » Vous voyez ça ici ? Il écoute, c'est un auditeur qui écoute et qui tout de suite il se met à l'œuvre. Il dit, je rentre chez moi, il faut que je change ça, c'est pas bon. Et ce frère, il était question de pardon aujourd'hui, j'ai un problème avec ce frère, je lui ai pas pardonné, il faut que je l'appelle, il faut que je règle cette situation. Je vais prier, je vais demander à Dieu la grâce de mettre ça en pratique. J'avais l'habitude de regarder ceci, non, je vois, j'ai compris que ça n'est pas bon, je voyais pas le problème avec, mais là, j'ai clairement compris que c'est pas bon. Seigneur, je rentre, je me repentis et je change ça. C'est ça que ça veut dire mettre en pratique. Voilà, j'avais l'habitude de critiquer ici. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi. C'est une mauvaise chose, je ne le fais pas. Telle manière de me comporter avec ma femme, eh bien, voilà, j'ai entendu qu'il ne faut pas faire ainsi. Je rentre et je le mets en pratique. Je change. S'il n'y a pas ça, ça sert à rien. L'évangile doit se voir au bout des doigts, au bout des pieds, au bout des yeux, au bout de la bouche, au bout de la langue. C'est-à-dire que tout mon être, d'accord, doit être pénétré par l'évangile. C'est ça qu'on appelle mettre en pratique. Ça doit se traduire par ce que je dis, ce que je vois, ce que je touche, où je vais, ce que je pense des autres, comment je me comporte avec eux. Si ça n'arrive pas jusqu'à là, j'ai accumulé 2000, 3000, 4000 sermons pour rien. Pour rien. Pour écouter avec profit la parole de Dieu, il faut traduire cette parole prêchée en des actes d'obéissance. Ce sont trois clés que nous pouvons considérer. L'apôtre Paul disait, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous voyez ça ici? S'il n'y a pas une pratique d'œuvre, on a parlé la dernière fois des bonnes œuvres, hein. S'il n'y a pas une pratique d'œuvre, l'écoute de la loi ne me justifie pas. Il faut que ça se transforme. Le fait que ça se transforme dans des actes concrets, c'est la preuve que j'ai vraiment été justifié. Donc, chers frères et sœurs, il nous faut faire ce que l'Écriture nous demande de faire. Demander dans la prière à Dieu de nous aider. Je pense que chacun, nous pouvons trouver des domaines, des choses que nous avons, pour lesquelles nous devons changer. Ne restons pas stériles, mais demandons à Dieu la grâce d'être fertile. S'il faut se repentir, repentons-nous, demandons pardon. S'il faut demander pardon à quelqu'un, demandons pardon à quelqu'un. Mais il faut que l'évangile se manifeste en acte pour que ça nous soit bénéfique. Donc je reprends, je résume ces trois clés, ces trois points que nous avons vus. Premièrement, que pour que l'évangile puisse avoir une efficacité dans notre vie, pour que nous puissions écouter les sermons, les études, l'explication de la parole de Dieu avec profit, il faut recevoir cette parole telle qu'elle est véritablement, quand elle est correctement prêchée, comme la parole de Dieu, et la recevoir avec révérence. Si je la reçois avec révérence, je serai attentif quand je l'écoute. Je vais pas me laisser distraire. Je vais arriver à l'heure pour l'écouter, parce que c'est Dieu qui parle. Si le président de la République parle et que j'arrive en retard, on me laisse pas rentrer. Quel sentiment me permet de dire je vais arriver au milieu de ce que Dieu dit? Non. D'accord? Si je sais que c'est la parole de Dieu que je prends le matin, je me lève et je vais la lire avec révérence. Donc on la reçoit telle qu'elle est véritablement. Deuxième point qu'on a vu, on doit mêler absolument la foi à la parole de Dieu. Je vais vérifier que c'est la parole de Dieu. Je vais la recevoir comme vraie et je vais me confier en elle. Je vais lui faire confiance. Et troisièmement, je vais prier que Dieu m'aide à transformer, à traduire en acte pratique les exhortations que j'écoute. Parce que même les exhortations que je reçois, c'est aussi la parole de Dieu. Et je dois dire, oui, ça, il faut que je le mette en pratique dans ma vie. Et le Seigneur nous aidera. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Et nous te remercions pour tous ceux qui sont là et qui ont fait des efforts ce matin pour venir, pour écouter ta parole. Seigneur, je te prie que tu nous donnes des cœurs qui reçoivent ta parole comme elle doit être reçue. Que tu soumettre nos cœurs à ce que ta parole dit de la prédication, de l'enseignement. Et Seigneur, que nous puissions la recevoir comme elle est, venant de toi. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que tu nous donnes une foi ferme dans ce que tu dis. Seigneur, que tu nous aides à mettre notre foi, notre confiance dans ce que nous entendons semaine après semaine. Et puis aussi, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à mettre en œuvre, à pratiquer, à ne pas simplement nous contenter d'entendre, mais à passer aux actes
aux actes d'amour, aux actes de pardon, Seigneur, à la prière, à tout ce que tu nous montres. Aide-nous, Seigneur, à grandir en toi, à développer une véritable communion les uns avec les autres. Et que ce soit un témoignage, que notre pratique de l'Évangile soit un témoignage de la réalité de l'Évangile dans notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons failli dans ces choses et nous te prions que par ta grâce, tu nous aides chacun pour la gloire de ton nom. Amen.